Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute de Studio Tamani, il est 8h à Bamako, la même heure partout au Mali. Vous écoutez les informations, voici les titres. Fin de la première réunion des experts des pays, organisation de l'Alliance des États du Sahel, AES, des recommandations pour booster la coopération entre les trois pays ont été formulées. Les cours reprennent ce matin dans toutes les écoles privées du Mali après 3 semaines de grève. Cela fait suite à la suspension ce samedi du mot d'ordre par les promoteurs de ces établissements. Plus de 14 000 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés en 2022 au Mali. L'information a été communiquée ce week-end lors du lancement des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. Mamadi Keïta assure la mise en onde. Tout d'abord, cette information, le père allemand Hans-Joachim Lohr, appelé communément père Hayo, a été libéré ce dimanche. L'information a été rapportée par des responsables de l'Église catholique. Selon eux, le prêtre allemand serait même dans l'avion pour son pays. Membre de la Société des missionnaires d'Afrique appelé père Blanc, Hayo avait disparu le 20 novembre 2022 à Bamako. Sa disparition n'a jamais été revendiqué, même si la thèse d'un enlèvement avait toujours été mise en avant. La réalisation d'une centrale nucléaire civile et la création d'une banque d'investissement, voilà entre autres recommandations de la première réunion des experts de l'Alliance des États du Sahel, AES. Les travaux ont pris fin samedi dernier à Bamako. Le renforcement de la coopération entre les trois pays de l'organisation dans les domaines de la sécurité intérieure, le transport, l'énergie et l'industrie a été au cœur des débats. Les détails avec Mamadou Samasiku.
Dans un communiqué final, les ministres en charge de l'économie ont recommandé le développement des aménagements hydro-agricoles à intérêt commun, la construction et le renforcement des projets d'infrastructure et la création d'une compagnie aérienne, la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement, la mise en place de l'architecture juridico-institutionnelle et les mécanismes de financement des instances de l'Alliance ont été également souhaités. Le document mentionne aussi l'élaboration d'une stratégie commune d'industrialisation du Burkina, du Mali et du Niger et la mise en place d'un fonds pour le financement de la recherche et des projets d'investissement énergétique. Les experts ont aussi recommandé l'amélioration de la libre circulation des personnes, la réalisation d'infrastructures adaptées pour le développement du cheptel et la mise en place d'abattoirs modernes. Ils ont aussi proposé de faire la promotion du financement et la construction d'infrastructures communautaires du monde de la diaspora. Enfin, les trois États recommandent la mise en place de 2 comités, dont l'un sera chargé d'approfondir les réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire, et l'autre s'occupera du suivi de la mise en œuvre de ces recommandations.
Pour l'économiste Abdul Karim Djamoutene, les États de l'Alliance ont suffisamment de ressources minières et de grands potentiels économiques pour honorer leurs engagements. Selon lui, le partenariat gagnant-gagnant développé avec la Russie peut leur permettre de mieux exploiter les richesses de leur sous-sol. Il est joint par Kouma Finkeita.
Ces trois pays-là sont très riches, extrêmement riches en ressources naturelles. Vous allez même voir, regarder au niveau du Niger, l'uranium, qui est à la base, n'est-ce pas, de la fourniture d'ex d'autres pays stratégiques, dont la France, dont tous les potentiels ne sont pas encore avérés. Aujourd'hui, les pays de l'Alliance du Sahel ont un partenaire stratégique, qui est la Russie, qui est disposé à leur offrir cette technologie qui nous empêchait d'abord d'explorer le sous-sol et également de valoriser ce potentiel-là que nous avons. On peut citer l'exemple des raffineries, on peut citer l'exemple des centrales nucléaires. Même aujourd'hui, dans le cadre de la défense, c'est une technologie qui aujourd'hui à nos pays pour être un peu autonomes. Même si nous développons, n'est-ce pas, l'industrie manufacturière au niveau de nos pays, il va falloir que nous puissions les vendre à l'extérieur parce que le marché intérieur il n'est pas aussi très grand que ça. Mais faudrait-il que cela se fasse dans le respect, dans les conditions de gagnant-gagnant. Je sais que le monde est en train de changer, il faut l'admettre.
Vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les écoles privées du Mali ont suspendu ce week-end leur mot d'ordre de grève. Les cours reprennent donc ce lundi 27 novembre dans tous les établissements secondaires et professionnels. Cette trêve vise à donner une chance au dialogue avec les autorités en charge de l'éducation, a indiqué l'Association des promoteurs des écoles privées agréées du Mali. Abdoul Kassoum Touré, secrétaire général de l'association, est joint par Sita Sidibé.
Non, aucune proposition solutions concrètes allant dans le sens de l'apaisement ou dans le sens d'une assurance quelconque pour nos paiements dans un délai raisonnable. Nous avons décidé d'aller à la trêve parce qu'il y a eu trop d'interventions. Donc, il y a les autres acteurs du système éducatif qui nous ont approchés et qui ont reconnu la pertinence quand même de notre revendication et qui ont prouvé, eux, à leur tour aussi de s'impliquer auprès des autorités pour favoriser les paiements. Donc, ils ont souhaité que vraiment les enfants puissent reprendre le chemin de l'école. Et après trois semaines, s'il n'y a pas de cours, on risque d'aller au congé de Noël dans cette situation. Donc, c'est à cause de ces sollicitations que nous avons estimé qu'on peut les accorder ce sursis-là, d'aller à la trêve jusqu'au fin décembre.
Sur un tout autre sujet à présent, c'est parti depuis ce samedi pour la campagne de 5 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles. À la faveur du lancement de cette campagne, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a révélé que plus de 14 000 incidents de VBG, dont la majorité contre des femmes et filles, ont été signalés en 2022. Les organisations féminines invitent les autorités à renforcer la protection des droits des femmes. Plus de détails avec Jiadata Maïga.
Pour la conférencière et ancienne ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Bintoufoune Samake, ce sont les failles du système judiciaire qui favorisent l'augmentation des VBG au Mali.
Aujourd'hui, nous avons un projet de loi qui bloque. Il y a le cas de l'excision, il y a le harcèlement sexuel, il y a le féminicide qui n'est pas pris en compte par le code. Il y a ce défi d'adaptation de nos lois aux sanctions.
Pour mieux protéger les femmes de ces sévices, la Commission nationale des droits de l'homme invite les autorités à mener des actions fortes pour changer toutes les normes qui favorise la violence. Aïssata Founé Tembeli, vice-présidente de la CNDH.
La CNDH invite les autorités à agir pour autonomiser les survivantes, réduire et prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles et protéger les droits des femmes.
Il faut rappeler que cette campagne de 16 jours d'activisme vise à sensibiliser sur les VBG et mettre en place des stratégies pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles au Mali.
8h07, la 6e édition du Festival des motards du Mali a pris fin ce dimanche au Palais des Sport de Bamako. Selon la commission d'organisation, l'événement a été une réussite malgré le contexte du pays. Plusieurs conducteurs de ces engins venus des pays voisins ont pris part à cet espace de convivialité entre les motards et leurs fans. Plus de le reportage de Aboubakrine Ag Mohamedine Yattara.
Pour des motards venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Sénégal, la fête des motards a été belle.
Ça a été un moment de cohésion entre nous.
Franchement, le festival des motards du Mali, il est réussi.
La route est très bonne, on a beaucoup aimé les prestations.
De leur côté, les organisateurs estiment avoir enregistré plus de participants cette année que les éditions précédentes. Tchemoko Sibi, membre de la commission communication du club des motards du Mali.
Nous sommes vraiment fiers pour cette édition, malgré tout à l'heure le contexte difficile, qu'on ait eu autant de mobilisation. Honnêtement, je félicite tous les membres du club des motards du Mali, tous les motards de la sous-région et du monde.
Rappelons que ce festival intervient à un moment où des sensibilisations sur l'importance du port du casque ont été organisées par l'ANASER.
Sport football, belle entrée en lice du stade malien de Bamako dans la phase de groupe de la Coupe de Confédération, de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Blancs de Bamako ont dominé les Diables Noirs du Congo hier à Brazzaville, 3-1. Dans un post sur X, anciennement appelé Twitter, des utilisateurs ont affirmé que le GNIM contrôle le camp de Niafenke. Dramane Maïga l'a vérifié pour nous.
Ce week-end, ils étaient nombreux sur les réseaux sociaux X à annoncer la prise du camp de l'armée malienne à Niafenke, région de Tombouctou, par le GNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda. Un utilisateur a publié, je cite, « Le camp de Niafenke qui abrite Wagner et Fama est pris par le GNIM ». Fin de citation. Un autre ajoute que c'est la ville même qui est contrôlée par le GNIM. À Niafenke, des habitants demandent catégoriquement ces informations. C'est vrai, il y a eu des coups de feu pendant plus d'une heure dans la journée, mais les militaires maliens patrouillent dans la ville, nous a confié un résident au téléphone. Un autre a aussi soutenu qu'un hélicoptère des FAMA a survolé la ville. Des propos appuyés par notre correspondant à Goundam qui confirme avoir également aperçu un hélicoptère dans le ciel de ce cercle voisin de Niafenke. Quelques minutes plus tard, l'armée a publié un communiqué sur sa page Facebook. Dans le document, elle a indiqué que les détachements FAMA de Niafenke et de Goundam ont repoussé ce vendredi des groupes armés terroristes. Donc, faites attention aux informations non sourcées qui circulent sur les réseaux sociaux.
À présent, le résumé de l'actualité de la semaine avec Moussa Agmahaha.
On entame cette rétrospective par le déplacement massif des populations de la ville d'Andarboukane vers la ville de Meneka et le Niger. Cette situation se réduit selon les sources concordantes aux menaces de groupes terroristes. Autre actualité, c'est le démarrage ce samedi de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Plus de 14 000 incidents de VBG ont été enregistrés en 2022 selon les organisations féminines. On termine cette rétrospective par la victoire des cadets maliens qui ont battu le Maroc, un but à zéro ce samedi. Les Aiglonais affronteront le mardi prochain leur homologue de la France en demi-finale de la Coupe du Monde de moins de 17 ans.
C'est la fin donc de cette édition que vous pourrez réécouter en appelant gratuitement sur Viamo en composant le 37 321. Vous pouvez également le retrouver sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme M. Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Le magazine Parlons de l'environnement d'aujourd'hui parle des feux de brousse, un élément qui tue la rentabilité du sol, des champs de mil ravagés, des hectares d'herbes et d'arbres décimés. Tels sont les dégâts causés par un feu de brousse mercredi dernier à Madouga, dans la commune urbaine de Nioro du Sahel.
Ces dégâts ont laissé les paysans sans voix. Certains se disent préoccupés par le sort des animaux domestiques qui sont généralement nourris par les résidus des champs après les récoltes. C'est le cas d'Ibrahim Lee, une des victimes.
Nous avons vraiment subi de lourdes pertes, surtout que la pluviométrie n'était pas bonne cette année. Beaucoup des champs sont partis en fumée alors que certains sont en maturité.
En plus de l'insécurité alimentaire qui risque d'être occasionnée par ces incidents, il y a aussi les conséquences environnementales qui peuvent survenir selon l'environnementaliste Gaussou Berthé. Il mentionne un appauvrissement du sol, entre autres.
Sous l'effet des feux de brousse, la végétation disparaît et le sol est exposé à l'insolation et à la déshydratation, à l'érosion. Le feu de brousse détruit la structure et la texture des sols et inhibe le développement de la microfaune qui, dans son activité, transforme la structure, la texture et la composition chimique des sols. L'effet de brousse, par sa forte production de CO2, c'est-à-dire de gaz carbonique, augmente les gaz à effet de serre préjudiciables à la couche d'ozone, avec comme conséquence le changement climatique, la pollution atmosphérique qui provoque des nuisances à la santé publique, comme des maladies respiratoires et cutanées, les cancers, l'irritation de la gorge, entre autres.
Par ailleurs, en dehors des accidents, le feu est une des techniques ancestrales utilisées souvent dans l'agriculture, comme c'est le cas dans certaines parties du pays. Écoutons la réaction de ces cultivateurs.
C'est dans l'optique de débroussailler que nous utilisons du feu. C'est pour éloigner les reptiles comme les serpents. Quand nous allumons le feu dans la brousse, tous ces bestioles capables de faire du mal disparaissent.
Les services des eaux et forêts estiment que l'effet de brousse contribue de façon considérable à la déforestation, un phénomène capital dans le réchauffement climatique selon eux. Le capitaine Mahamadou Sidibé est le chef de cantonnement des eaux et forêts de Nioro du Sahel. Il a prodigué des conseils par rapport à la prévention des feux de brousse.
Nous sommes entrés dans une période de vent qui souffre surtout avec une forte vitesse. Essayer de contrôler les vents au moment où ils s'organisent à aller en brousse pour aller faucher les herbes et de ne pas transporter avec eux l'allumette, les briquettes, ainsi de suite. Voilà, parce que souvent avec l'inattention et l'imprudence, le feu peut échapper à tout moment.
Comment rendre les cultivateurs résilients? Des spécialistes donnent des pistes de solutions. Le technicien Gaussou Berthe parle de techniques utiles.
Il faut laisser reposer et régénérer cette partie de la terre brûlée. Il faut tout éviter pour que le feu ne revienne pas. Sinon, les jeunes pousses qui vont commencer à pousser donc seront tout de suite détruites. Et ensuite, il faut limiter la divagation des animaux dans ces forêts. Non, par rapport à la terre, il faut la jachère, laisser la terre se reposer et ensuite la couche superficielle va régénérer. Donc, si ce sont des terres agricoles, donc il y a des systèmes de paillage qu'on peut faire pour pouvoir amener la fumée organique, la recomposition de la couche arable.
Notons que plusieurs cas de feux de brousse ont été signalés entre 2022 et 2023 dans certaines localités du nord du pays. Il s'agit de plusieurs villages de Bourem et Koulikoro, entre autres. Merci d'avoir suivi ce magazine présenté par Fatia Tara. À la prochaine.